Merci à tous de m'avoir permis de présenter cette communication aujourd'hui. Donc effectivement, il va être question d'un zouave, de sa correspondance, mais aussi de ses tentatives d'écriture un petit peu plus narrative, voire romanesque, avec des fragments isolés, non datés, qui vont être étudiés partiellement ici. Donc effectivement, le corps des zouaves, ce n'est pas forcément un corps d'armée qui est très étudié pour la Première Guerre mondiale. Il s'est illustré sous le Second Empire, mais en réalité, il y a peu d'études qui portent sur le sujet pour la Grande Guerre. D'ailleurs, il faut attendre les années 2000 pour que la France leur rende véritablement hommage. Et ici, donc, non seulement il s'agit d'un jeune zouave, mais aussi d'un jeune homme, puisqu'il s'engage, si vous calculez bien, avant l'âge légal, avant ses 18 ans, donc c'est quelque chose d'assez spécifique. Donc ici, nous allons étudier son acte épistolaire, son acte narratif, qui va nous permettre d'étudier son expérience combattante et surtout sa façon de transformer son expérience du quotidien en un acte presque extraordinaire, notamment par son écriture et par son style assez narratif. Donc on va procéder, n'ayez pas peur, rapidement, en trois temps. Premièrement, donc on va revenir sur son engagement militaire qui s'est fait avant l'âge légal. On va présenter rapidement donc, de qui il s'agit au fond. Ensuite, on va voir vraiment son expérience combattante et comment sa figure de jeune soldat est héroïsée par l'écriture. Et puis ensuite, donc, nous verrons comment il a pu rechercher une certaine postérité par l'écriture, puisqu'il meurt très jeune, il meurt à Verdun en 1907. Alors, ce fond, qu'est-ce que c'est? Alors, ne cherchez pas qui est Olivier Châtelier, il est inconnu. C'est un fond que j'ai eu en ma possession grâce aux ayants droit qui m'ont directement donné. Donc, il n'a pas non plus été versé en service d'archives. Il comporte une correspondance active de 54 pièces, rédigées, donc on a comme date extrême 30 octobre 1909, 27 mai 1916. En réalité, il n'y a qu'une seule lettre de 1909 qu'il écrit lorsqu'il est très jeune encore à l'école. Le plus gros de la correspondance se situe donc entre 1914 et 1916. C'est donc des pratiques d'écriture, des lettres assez rapprochées. Et s'ajoutent à cela, comme je vous le disais, deux fragments non datés. Alors, ils sont à la fois inachevés et incomplets, parce que donc, je n'ai donc pas la fin de ces fragments, mais pas non plus le début. Donc, c'est vraiment des tentatives d'écriture, mais on va voir que l'orthographe, la syntaxe et surtout le contenu sont différents des lettres, comme on a pu l'évoquer dans d'autres communications. La mort est évoquée dans son essai plus romanesque et narratif, et pas du tout dans sa correspondance avec ses parents, par exemple. Quelques éléments de contexte. Olivier Châtelier, il est issu d'un milieu relativement modeste. Ses deux parents sont domestiques en région parisienne, et il était placé très tôt en pension. Et il a quand même reçu une certaine éducation, puisque dans la lettre du 30 octobre 1909, c'est écrit sur un papier en tête les questions de l'école secondaire de l'Immaculée Conception, située rue Vaugirard à Paris. Donc il a quand même eu une certaine éducation scolaire. Bien. Alors, la singularité de cette démarche d'écriture, c'est surtout ici, dans ce fond, on n'a pas uniquement des lettres qui ont été écrites au front, mais on a aussi la genèse de l'arrivée au front et surtout la question de l'engagement. Ce qu'on ne trouve pas forcément dans les écrits de poilus, qui se mettent à écrire une fois qu'ils sont arrivés sur le front. Tandis que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fui sa pension, il a fugué, étant très jeune, et il a écrit à ses parents pour obtenir d'eux une autorisation afin de s'engager dans le corps des zouaves. C'était un moyen pour lui de faire pression sur la famille afin d'accomplir son désir patriotique, ce qui est tout à fait spécifique. Tout ça, on retrouve dans sa lettre du 8 octobre 1914. Donc, il a essayé de s'engager dès la mobilisation. Il faut savoir que j'ai pu interroger son neveu, puisque Olivier Châtelier avait deux frères, alors bien sûr ils ne sont pas connus, hein, Mais son neveu, qui est âgé, hein, m'a fait part du fait qu'apparemment il avait essayé de s'engager deux fois auparavant. On n'en a pas trace dans sa correspondance. Donc il évoque « Depuis le commencement de la guerre actuelle, j'ai toujours vu de m'engager et de donner, s'il le fallait, tout mon sang à mon noble pays. Vous avez opposé votre volonté à ce désir. Je me suis révoltée contre cette opposition qui me mettait dans l'impossibilité de contracter un engagement. Quand je me suis vue seule à Paris, j'ai essayé de lutter contre ce désir terrible de m'engager et le devoir de vous rester obéissant, mais fatalement, j'ai obéi à un désir de Français. J'ai manqué au devoir d'un fils et je suis partie. » Ici, on voit vraiment qu'il place son devoir patriotique au-dessus de ses liens familiaux. Et dans le post-scriptum de cette même lettre, il revient sur cette thématique. « Si vous y consentez, tout s'arrangerait pour le meilleur, et alors je pourrais m'engager et accomplir mon devoir et repartir. Ai-je eu tort de faire ce que j'ai fait? À d'autres de juger pour moi. Je vous dis que j'appartiens plus à la France qu'à ma famille. » Là, ici, on a véritablement la mère patrie située, pour lui, au-dessus de la mère de famille. Donc on a un engagement spécifique, qui sort de l'ordinaire, mais une expérience combattante, dans un premier temps, qui reste celle traditionnelle d'un jeune poilu au front. Puisqu'il évoque des thématiques, en somme toute assez classiques, qu'on retrouve hein, dans tous les documents de la Grande Collecte. Par exemple, ici, bon, je ne vais pas revenir sur tout, il évoque ici des problématiques militaires. Il évoque plus loin le problème du retard postal, qui est bien connu dans toutes les correspondances de Chouette. Il évoque aussi la censure. La censure m'empêche de vous dire des noms précis de villes, ni aucun autre renseignement. Donc lorsqu'on se plonge à première vue dans cette correspondance, le fait qu'il appartienne au corps des Zouaves ou son jeune âge ne vienne pas modifier véritablement le contenu. Tout de même, le patriotisme très fervent qu'on a vu précédemment, il se distingue. Puisque, alors on a vu hein, que ce lieu commun de la fameuse fleur au fusil, on ne la retrouve pas forcément à chaque fois. Mais ici, de par son jeune âge, Olivier Châtelier, c'est véritablement un enfant de l'école de la Troisième République peut-être aussi de cet esprit revanchard qui a pu être inculqué dans sa scolarité. Il y a cette problématique véritablement patriotique, et il s'inclut totalement au corps des Zouaves. Alors on n'a pas pu véritablement déterminer comment il avait pu intégrer ce corps d'armée. Alors il n'est pas originaire d'Afrique du Nord, alors sachant qu'au moment de la Première Guerre mondiale, en réalité, il y a beaucoup moins de soldats issus d'Afrique du Nord dans le corps des Zouaves. On pense tout simplement que ce corps d'armée était plus enclin à accepter des soldats avant l'âge légal que certains autres. Également, il y avait à Rosny-sous-Bois, pour lui, une possibilité d'entrer dans le corps des Zouaves, et on sait qu'il vivait en région parisienne, donc ça peut aussi être une explication. Donc là, il s'inclut totalement à ce corps des Zouaves et il en parle. Bientôt, les Zouaves iront à leur tour revivre les ruines pénibles parfois, mais souvent glorieuses, des journées de combat. Il n'évoque pas, il n'y a pas l'utilisation de la première personne du singulier, mais on sent qu'il est inclus dans ce corps d'armée et pour lui, il en fait partie intégrante. Alors, en quoi est-ce que cette correspondance se distingue tout de même des autres correspondances de Poilu? En réalité, c'est par une tendance à la narration qui est de plus en plus importante. Il faut savoir que les premières lettres de la correspondance sont relativement courtes, une page, deux pages maximum. Et plus on avance dans la correspondance, plus la correspondance est longue. Alors c'est pas pour combler un retard d'écriture, la fréquence d'écriture est toujours la même, mais les lettres ne sont plus de 2 pages, mais plutôt de 4, voire 5 pages. Et on a quelque chose de très caractéristique, qui est les récits enchâssés, emboîtés, avec l'ouverture de guillemets et la narration. C'est anecdote dans une autre anecdote, encore une autre anecdote, comme s'il réécrivait le réel, dans sa lettre. Ça commence avec sa lettre du 15 février 1915. Donc, je vais simplement vous parler de quelques heures de l'après-midi de la dernière journée. Il ouvre les guillemets. Il était environ 3h30. Je venais d'écrire une longue lettre à Georges, ou Georges, son frère aîné, dont j'espère il vous parlera. Et dans cette lettre, mon camarade de combat, un humble ami nommé Chapon, avait écrit quelques lignes. Nous nous moquons de la maladresse des tireurs allemands qui, depuis le matin, arrosaient de leurs obus et de leurs bouteillons nos tranchées sans réussir à nous atteindre. Donc ici, on a trois récits. Il explicite quelque chose qui s'est passé dans l'après-midi. Ensuite, il évoque une lettre et quelqu'un qui a écrit dans cette lettre. Donc, vraiment l'emboîtement des récits. Même chose dans la lettre du 3 avril 1915. Voici un fait à peine croyable, bien que véridique, il ouvre les guillemets. Dans la nuit du 31, les Allemands lancèrent dans les tranchées un cadre de bicyclette dans lequel tournaient ces mots sur un papier. Vous ne tirez pas, nous ne tirons pas, venez vite nous combattre afin que cette guerre soit vite finie. Le Zouave qui avait reçu cette lettre la montra à notre commandant. Encore une fois, des récits emboîtés, il ouvre les guillemets deux fois. On voit vraiment qu'on entre dans quelque chose de beaucoup plus narratif. On passe, c'était le cas dans la lettre précédente, on passe du présent, les temps du présent au temps du passé, avec l'utilisation de l'imparfait, du passé simple, une sorte de réécriture à l'intérieur même du style épistolaire. Ensuite, notre poilu, dans ses réécritures, va s'adonner en réalité à un acte narratif complet, puisque comme je vous l'évoquais, il a tenté d'écrire, alors on ne sait pas si c'est un petit roman, une autobiographie, si c'est un extrait de carnet, si c'est un journal, toujours est-il qu'il semble qu'il y ait une relecture, parce que l'orthographe, la syntaxe ne sont pas du tout les mêmes que dans ces lettres qui ont été retrouvées comme un petit fond, ces 54 lettres, comme s'il y avait une relecture, puisqu'ici les graphiques que vous voyez bien sûr sont d'origine. Et petit à petit, donc, on se rend compte qu'on va aller vers cette tentative d'écriture, peut-être au fur et à mesure qu'il approche de la mort, puisqu'on ne sait pas quelle réalité du danger et de la mort ce poilu pouvait avoir. Dans les lettres, il n'évoque quasiment jamais le danger, très certainement parce qu'il ne veut pas affoler sa famille, ce qui est tout à fait compréhensible. Et en réalité, à chaque fois qu'il y a une évocation des manœuvres ou des bombardements ou des batailles, il y a presque une esthétique de la guerre. C'est ce qu'on voit dans sa lettre du 16 juin 1915. Je viens de voir un des plus beaux bombardements que j'ai vu depuis 6 mois. Donc il y a une beauté du bombardement. Ensuite, il évoque la joie également de la guerre et du combat. Dans sa lettre du 1er octobre 1915, l'offensive en Champagne est venue nous causer une joie extrême. Ce n'était plus la joie, c'était du délire. Donc on est presque dans l'emphase ici. Et tout ce qui est négatif n'est pas évoqué par Olivier Châtelier. Je reviens peut-être dessus. J'ai perdu une citation, je vais vous la lire. À un moment, il a une formulation très littéraire. Il évoque le fait qu'il y ait des cadavres donc à côté de lui. Et il ne veut pas, bien sûr, l'écrire directement. Il écrit simplement... Notre pauvre appendice nasal faisait l'expérience du contraire de la parfumerie. Donc là, c'est la périphrase la plus totale, c'est un euphémisme véritable, qui montre bien qu'il ne souhaite pas en réalité évoquer le côté négatif. Et à mesure où on se rapproche du moment où il va arriver à Verdun, les lettres à nouveau deviennent de plus en plus courtes. Ça vient du fait également qu'il change de support d'écriture puisqu'il va se mettre à utiliser de plus en plus ces petites cartes postales de correspondance militaire bien connues. Ici, vous en avez un exemple. C'est l'exemple du 2 janvier 1916. Évidemment, il ne veut pas s'épancher de la même manière sur ce support que par rapport à des feuillets, aux feuillets qu'il rédigeait auparavant. Et le plus éclairant, peut-être, c'est sa dernière lettre. donc celle du 27 mai 1916. Donc qu'il écrit une semaine avant de tomber à Verdun, puisqu'il il meurt début juin à Verdun. Ici, elle est éditée en intégralité, elle n'est pas coupée, ça vous montre un petit peu à quel point elle est brève. « Chers parents, je suis actuellement à 40 km de Verdun, nous devons nous tenir prêts à partir d'une heure à l'autre. 200 autobus nous attendent pour nous mener à proximité du front. Je suis toujours en bonne santé, bon baiser, Olivier. » Donc, on pourrait se poser plusieurs questions sur cette lettre. Pourquoi sa brièveté? Alors, est-ce qu'il n'a pas eu le temps d'écrire? Est-ce qu'il comptait écrire plus longuement par la suite? Est-ce que c'est un moyen aussi de ne pas évoquer la peur, peut-être, qui le tiraille, sachant qu'il va arriver à Verdun? Est-ce que c'est une véritable inconscience du danger ou une manière d'éviter d'évoquer le danger? Donc ça, c'est la question qui reste en suspens, mais à laquelle ces tentatives d'écriture, donc narrative, répondent en partie. Puisque dans ces extraits de romans, romans autobiographiques qui ont été retrouvés, on a une évocation du danger, de la mort, de la peur, et peut-être par là une recherche, pourquoi pas, de la postérité, une volonté de rester là après la mort prochaine qui l'attend. Premier extrait. En me tâtant la tête, je n'ai pas senti de sang. J'ai compris que je n'étais qu'étourdie. Je n'avais reçu que la décharge de poudre, alors que la mitraille avait passé quelques centimètres au-dessus de ma tête. Ici, il évoque véritablement le danger. Il comprend qu'il est passé très près de la mort. Nous n'avons absolument pas ça dans les lettres à ses parents, bien évidemment. Au contraire, hein, avec des euphémismes, des litotes. Là, il a une pleine conscience, véritablement, du danger qui lui est passé à quelques centimètres au-dessus de la tête. Un petit peu plus loin, il ne restait qu'un bout de parapet de 4 ou 5 mètres avec un pare-balles d'égale longueur. Le reste n'existait plus. À droite et à gauche, pas de veilleurs, que des tués. C'est la seule et unique fois dans ce corpus où il évoque le mot « tuer ». Il n'y a pas d'évocation de la mort à d'autres moments. Et dernier extrait, ce fut réellement par miracle que nous ne fûmes pas touchés. Nous étions couverts de boue et de vase, nos figures noires de poudre nous faisaient rire mutuellement. Ce dernier rire, est-ce un rire de peur? En tout cas, l'évocation du miracle montre que cette conscience du danger et de la mort, on la retrouve dans un écrit qui se veut peut-être plus personnel. Est-ce qu'il avait l'intention, dans ses essais de narration, de publier, de montrer tout simplement cette écriture à quelqu'un? On ne le sait pas. En tout cas, on réalise que ces écrits personnels, avec différents destinataires, voire aucun destinataire, donnent à voir des facettes différentes d'une même expérience combattante, une expérience combattante singulière, puisqu'elle a à la fois celle d'un très jeune homme et aussi celle d'un zouave. Et on pourrait conclure donc avec une citation du général Guedin, qui a fait partie donc du corps des Zouaves au moment de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il disait « On ne peut qu'être impressionné par les souvenirs de bravoure laissés par les Zouaves au cours de toutes les guerres, depuis la conquête de l'Algérie jusqu'à la dissolution de toutes les unités. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un Zouave? Une définition venant de loin, du plus profond de la conviction du peuple de France, affirme que c'est un homme intrépide qui ne craint rien. » Peut-être que cette dernière définition pourrait s'appliquer à Olivier Châtelet.
Merci Julie d'avoir en plus pour la communication et d'avoir parfaitement respecté le temps imposé. Donc ça nous laisse 5 minutes pour les questions de la salle.
Alors j'ai une question vraiment de détail et qui ne rend pas hommage à la bravoure de ce jeune homme. C'est les guillemets. Est-ce que, puisque vous transcrivez fidèlement, c'est son usage d'isoler les anecdotes par des guillemets?
Oui, c'est son usage. Ce sont des... Alors là, c'est il se trouve qu'il y a des guillemets. Alors je vais peut-être revenir.
Parce qu'il y a des guillemets pour le discours direct, c'est vrai, mais ils sont eux-mêmes pris.
Voilà. Ici, voilà. Les guillemets qui sont avant le « je » sont de ma part, pour évoquer que c'est une citation, un extrait de la lettre, mais les seconds guillemets sont de sa part. Hein, sont de son fait. Et il y a aussi une. Ici, je n'ai pas de capture d'écran, on a un changement de disposition dans la lettre. Hein, il va à la ligne, vraiment. Pour lui, c'est un récit dans le récit. Une anecdote dans l'anecdote, un emboîtement des récits. Oui.
C'est aussi un détail. Je trouvais trouvée vraiment très très intéressante votre communication. Mais vous avez mentionné qu'il a écrit d'autres textes où là la morphosyntaxe était différente. De quelle façon était-elle différente? C'est quoi les éléments qui, parce que c'est des éléments narratifs, j'imagine.
Alors ici vous avez seulement quelques extraits, ça fait partie donc de ces feuillets non datés. L'orthographe en général est quasiment toujours exacte et la syntaxe également a été beaucoup plus travaillée. On a aussi des ratures. Effectivement, je pense que j'aurais dû le mentionner, vous avez raison. Il y en a aussi des ratures qui montrent qu'il y a sûrement eu une réécriture.
Oui. Tout se passe comme s'il écrivait la geste d'Olivier Châtelier. Les paroles sublimes, le courage, entre guillemets, c'est ça qu'il décrit.
Peut-être, oui, c'est comme s'il y avait Olivier Châtelier ordinaire qui parle à ses parents, et puis l'anecdote, et là Olivier Châtelier, le héros, le soldat.
Une espèce de geste.
Oui, c'est beau, oui.
Pas d'autres questions? Donc, s'il n'y en a pas d'autres, on va vous remercier, Julie.